Matthieu 21, 29, il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Il alla. Quand David m'a demandé cette semaine, il m'a écrit un email puis il m'a demandé, il t'a magané, pauvre David, il l'est encore, de le remplacer, eh bien, dans mon cœur, tout de suite, ça m'a dit non. Non, 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 non. Moi, je fais plus ça, je suis plus capable de faire ça. On va laisser ça pour d'autres. Puis j'ai dit, j'ai pas dit ça tout de suite, là. Mais moi, c'est dans mon cœur que ça dit ça. J'ai dit, je vais te réécrire demain, je vais t'envoyer un email. Puis j'ai prié là-dessus, puis le Seigneur, ben, connaissez le Seigneur, hein? Vous connaissez le Seigneur? Hein? Il m'a parlé dans mon cœur, puis il dit, écoute, Serge, c'est un appel venant de moi, ça. Ça vient de moi, ça. Donc, tu dois être là. Vas-y avec la force que tu as. Moi, je la multiplierai, ta force. Je me sens faible, mais je suis fort en lui. Vous vous sentez faible, mais vous êtes fort en lui. Vous pouvez être sûr de ça. Puis on va regarder un texte ce matin qui va nous toucher aussi, je pense, pour chacun d'entre nous. Prenez le psaume 22, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Intitulé le titre du message « Abandonné de Dieu ». Abandonné de Dieu. Quel titre! Quel titre! Avez-vous déjà remarqué qu'on pouvait se sentir seul? On pouvait même se sentir seul au milieu d'une foule. Avez-vous déjà remarqué ça? On est dans la foule, puis il me semble qu'on est seul. Puis pourquoi aussi? Pourquoi il y a tant de jeunes aujourd'hui tombent dans l'alcool, tombent dans les drogues, puis ils s'autodétruisent? Pourquoi que ces gens-là font ça? Ah, il y a des moins jeunes aussi. Mais une des grandes causes, c'est pour enlever ce sentiment de solitude qu'ils ont en dedans d'eux. Chacun de nous, à un moment donné de sa vie, a vécu cette expérience de se sentir seul, de se sentir abandonné. Si vous ne l'avez pas vécu encore, bien, vous la vivrez certainement. Vous la vivrez certainement. Vous souvenez-vous de la dernière fois où c'est que vous êtes senti seul? Où c'est que vous êtes senti abandonné par les autres? Où c'est que vous êtes senti oublié de Dieu? Peut-être même ce matin, vous êtes là, ici, parmi nous, dans cette salle, là où est-ce que vous êtes, assis. Peut-être que vous vous sentez seul, abandonné. Peut-être que tu te dis même, qu'est-ce que je fais ici, moi, ce matin? J'aurais été bien mieux de rester chez nous. J'aurais été bien mieux de rester chez moi. Qu'est-ce que je fais ici, ce matin? Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut vous parler ce matin. Puis si vous n'êtes jamais senti seul, mais peut-être qu'un jour, vous allez vous sentir seul, puisqu'on va regarder au travers de la vie de David, dans ce psaume-là, va vous aider. Va vous aider le jour où ça vous arrivera peut-être à vous restaurer. Prions. Seigneur notre Dieu, je suis ici devant toi, je t'ai dit oui. Je sais que tu vas nous donner ta puissance. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole ce matin. Tu nous as donné ce merveilleux livre, tu nous as donné l'Ancien Testament aussi, pour notre instruction. Nous allons ouvrir le psaume 22, nous allons regarder, nous allons puiser, justement, comment cet homme s'est senti seul et comment, Seigneur, il a été restauré. Donc, apprends-nous par la vie de David. Nous t'en prions au nom de Christ. Amen. Si on regarde le psaume 22 nous parle de quoi? Justement, il nous parle d'être abandonné de Dieu. Puis on va voir ce matin quatre points qui concernent l'abandon. L'abandon, premier point, c'est que l'abandon, c'est une expérience universelle. David, on peut se poser la question, David a-t-il réellement vécu cette expérience d'être abandonné de Dieu? L'a-t-il réellement vécu cette expérience? Est-ce que Dieu l'a réellement abandonné? Non! Non, bien sûr, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, que David pensait, lui, que Dieu l'avait abandonné. Il y a des gens ici qui se pensent en bonne santé. Peut-être moi, là, présentement, je me passe en bonne santé. Puis peut-être qu'au fond de moi, il y a un cancer qui est en train de me gruger. C'est pas la même chose. C'est pas la même façon de voir les choses. Peut-être quand on fait un voyage, on se pense sur le bon chemin. Mais on est complètement sur le mauvais chemin. Quand on jase avec quelqu'un, peut-être qu'on dit, « Moi, j'ai la vérité. Je suis sûr que j'ai la vérité. » Mais peut-être la réalité, c'est que j'ai tort. Mais David avait tort. Avait tort de penser que Dieu l'avait abandonné. Pour nous, chrétiens, on sait très bien que quand on lit le psaume 22, c'est la description. La description du Seigneur à cause des parallèles qu'il y a dans le Nouveau Testament qui font directement référence à Jésus-Christ. Il y aurait plus de 24 citations ou allusions dans ce psaume dans le Nouveau Testament. Puis j'aimerais qu'on en regarde quelques-unes ensemble. On n'en regarderait pas beaucoup, peut-être disons deux parce que déjà le temps avance. Je n'aurais eu plus que ça, mais on va en regarder deux. Psaume 21, quand il dit, psaume 22, verset 1, quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ben, on voit ce parallèle-là dans Matthieu 27, verset 46, lorsque le Seigneur lui-même a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le verset 19, « Il se partagea mes vêtements, ils tirèrent au sort ma tunique. » Matthieu 27, 35, « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. » En les tirant au sort. Puis on peut voir la suite de ce verset-là. Puis j'aimerais lire une citation de la Bible à Matthieu ce matin, faire une petite parenthèse puis lire cette citation-là. Ce que David a écrit est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le guidait pour écrire exactement ce qu'il pensait. Et dans ce psaume 22, nous voyons l'esprit prophétique prendre pour point de départ une circonstance particulièrement grave de la vie du psalmiste et épuiser les éléments d'un tableau qui dépasse de beaucoup en importance cette circonstance elle-même. Et ce tableau se trouve être en réalité la description fidèle de ce qui s'est passé 900 ans plus tôt en la personne de Christ. David, loin de l'Éternel, a eu à souffrir à l'avance quelque chose de ce que devait souffrir loin par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cette analogie voulue de Dieu qui existe entre la personne de David et celle du Messie est comme le trait d'union qui rattache à travers les siècles les souffrances de David à celles de Christ. Fin de la citation. Donc, en partie, on peut voir que le psaume 22 est prophétique, annonçant d'avance les souffrances de Jésus-Christ 900 ans avant que ça arrive. Mais vous savez quoi? Beaucoup de personnes se sont identifiées à ce psaume et s'identifient encore aujourd'hui. On va regarder de manière différente ce matin ce psaume. On est habitué à lire ce psaume quand on a la table du Seigneur, quand on a le repas du Seigneur. Souvent, on lit ce psaume. On lit Isaïe 53. Les souffrances du Seigneur. Mais d'une manière différente, ce matin, on va regarder, lui, l'auteur de ce psaume, l'auteur de David, là, David lui-même. Qu'est-ce qu'il vivait, lui, David lui-même? Qu'est-ce qu'il subissait? Il était en persécution. Il y avait des épreuves. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Qu'est-ce qui se passait dans le cœur de David? Regardez le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter ma plainte? » C'est David qui écrit ça, là. David croit à la présence de Dieu, mais il expérimente une autre chose. Il croit être abandonné de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est sûr que ça n'a pas le même impact que lorsque le Seigneur était sur la croix puis qu'il a crié « Élie, Élie, lama sabachthani ». C'est sûr que ça n'a pas eu le même impact. Mais pour David, il était abandonné de Dieu. Mais quand Christ était sur la croix, lui, on sait ce qui était arrivé. Hein? Pour un temps, il était abandonné de Dieu, lui. Parce que lui est devenu le dépotoir du monde. Lui est devenu le dépotoir du monde. Tous nos péchés ont tombé sur lui. Puis aux yeux de Dieu, ça ne sent pas bon. Ça ne sentait pas bon. Il n'est pas capable, Dieu, d'être en contact avec le péché. Mais on sait que Dieu l'a restauré. Qu'arrive-t-il avec David? Il croit que Dieu l'a laissé tomber. Dieu semble s'être éloigné de David. Puis à première vue, dans ce psaume, rien n'indique que ce soit dû à un péché. David ne s'est pas éloigné de Dieu. David est là, lui ne s'est pas éloigné de Dieu selon ses pensées. Il semble plutôt que c'est Dieu qui s'est éloigné de lui. Regardez le verset 3. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. » Non seulement Dieu semble s'être éloigné, mais il semble aussi être silencieux. David, dans sa prière, demande à Dieu, « Hey, parle-moi au grand Dieu. Réponds-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi à cet instant, là, lorsque je suis, dans ce que je vis, j'ai besoin de toi. » Mais sa prière, elle reste où? Elle semble ne pas monter plus haut que le plafond. Ça vous a déjà arrivé de prier comme ça? Ça vous a déjà arrivé d'être couché dans votre lit puis prier? Moi, ça m'a déjà arrivé. De prier puis il me semble, où est Dieu? Il me semble que je suis seul, il me semble qu'il n'entend pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Même s'il ressent le contraire, même si David ressent le contraire, il confesse encore une fois sa foi dans la fidélité de Dieu. Verset 5 et 6. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Verset 6. Il criait à toi, il était sauvé. Il se confiait en toi, il n'était point confus. Alors pourquoi ça m'arrive, moi? Tu exaucais nos pères, tu exaucais Abraham, tu exaucais Isaac, Jacob, Moïse. Ces hommes criaient quand ils étaient dans l'épreuve. Puis tu les délivrais. Mais David, lui, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit là où il est, dans la situation où il est, c'est quoi? C'est le silence. C'est la séparation, l'abandon. 7 et 8. Et moi, je suis comme un ver et non un homme. Le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils rouvrent la bouche, secouent la tête. Comment David se sentait-il? Comment se sentait-il face à ces insultes-là? Comme un ver. Un ver de terre. Il ne se sentait pas comme un humain, il se sentait comme un ver. Puis qu'est-ce qu'on fait avec un ver ordinairement quand on voit un ver? On l'écrase, ce ver-là. Il se sentait comme ça, David. Minuscule. Prêt à être écrasé par ceux qui l'entouraient. On se moquait de lui. Les gens, à ce temps-là, croyaient que la richesse et le bien-être étaient des signes certains de la bénédiction de Dieu. Ça, dans l'Ancien Testament, on voit ça. Ta richesse, bien-être, tu es sous la bénédiction de Dieu. Mais la maladie, les difficultés, ça, c'était des signes de jugement de Dieu. Tu es jugé par Dieu, mon ami. Puis il se sentait comme ça. À cause des problèmes de David, les gens pensaient qu'il était jugé de Dieu. On en connaît des gens. Hein? Vous vous rappelez la vie de Job? Hein? Ces trois petits amis qui sont arrivés et disent « Hey, Job, peut-être si tu confesserais ton péché, là, que Dieu te restaurerait. Là. Confesse donc ton péché, Job. Vas-y donc. » Les gens passaient à côté de David, puis probablement qu'ils disaient « Hey, il a fait quelque chose de grave, lui, pour qu'il soit dans cet état-là, présentement. Hein? Il a fait quelque chose de grave. Il faut mériter ce qui lui arrive. » Peut-être on voit des gens, là, puis que ça ne va pas trop bien dans leur vie, des gens qui sont malades, des gens qui ont perdu leur emploi, ou peu importe. Peut-être qu'on pense, hein? Peut-être la première pensée qui nous vient en tête, « Wow, il doit y avoir quelque chose, lui. » Peut-être sa relation avec Dieu n'est pas très, très bonne. Mais soyons sages. Soyons sages dans nos pensées. Soyons sages dans nos commentaires. Faisons attention. Faisons pas comme les trois amis de Job, tout de suite, mettre un doigt et accuser les gens. Verset 9. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Même quand le peuple humilie, Dieu reste silencieux. Verset 10 et 11. Il confesse encore une fois sa foi en se souvenant comment Dieu s'est comporté envers lui, comme une sage-femme. Regardez les paroles. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Jusqu'à maintenant, tu as été mon Dieu. Mais alors pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Verset 12, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, que personne ne vient à mon secours. T'éloigne pas de moi, j'ai besoin de toi. Pourquoi ça m'arrive, ces choses-là? Je suis seul. Tu t'es éloigné. Tu m'as abandonné. » Ce qui nous amène à un deuxième point. À un moment donné dans notre vie, nous vivons tous ce sentiment d'abandon. Je l'ai dit au départ, je l'ai dit dans l'instruction. À un moment donné dans notre vie, nous sentons tous ce sentiment d'abandon. Ah, tu vas me dire, hey, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas avoir vécu ce que David a vécu. Mais savez-vous qu'un sentiment d'abandon, ça peut être à différents degrés? Comme un mal, ça peut être à différents degrés. C'est moi qui vous expliquer souvent, on me demande, « Ouais, mais l'enfer, là, il va y avoir un lieu à l'enfer où il va y avoir des gens qui vont souffrir moins que l'autre, là, puis là, ouais, puis... » Ben oui. J'emmène deux personnes ici, je m'en à Ghislain. En fais-tu l'expérience? Je l'emmène, j'ai une belle petite hache, puis j'y coupe deux doigts. Oh! Fait mal, ça, Ghislain? Hey, fait mal. Ben oui, ça fait mal. Puis là, je demande à David. David vient, puis j'y coupe le bras. Pouf! Qui souffle le plus? Quel est des deux celui qui souffle le plus? Ah, moi, être assis, moi, je dirais tout de suite, c'est David, il a le bras arraché. Non, tout de suite, la première impression, c'est celui qui a le bras arraché. Mais que je vais demander à Ghislain, comment tu souffres, Ghislain? Ah, regarde, David, il souffre bien plus que toi. Il se fout-tu de David, lui? Hein? Hey, son mal, il est là, ses deux doigts, la souffrance, le cœur veut sortir. Voyez-vous? À différents degrés, l'abandon de Dieu, on peut la sentir. Je n'ai pas à juger si quelqu'un souffre plus que l'autre. Je vais être compatissant, avoir de la miséricorde pour lui, parce que sa souffrance, elle fait mal. Sa souffrance, elle fait mal, vous pouvez en être sûr. Vous savez, ce n'est pas un manque de maturité spirituelle que de ressentir ça. Il y a bien des chrétiens aujourd'hui, et même des hommes, des femmes de Dieu qui ont eu cette expérience, une expérience émotionnelle comme ça. On voit Élie dans la grotte, hein? Élie, quand il s'est retiré, il se sentait abandonné de Dieu. Est-ce qu'il l'était? Non, il se sentait, il pensait qu'il l'était. Plusieurs personnes qu'on connaît aujourd'hui qui se sentent abandonnées de Dieu. Je vais vous confesser quelque chose. Ça fait presque 3 ans aujourd'hui. J'ai été dans une grotte. J'ai été dans mon sol. Pourquoi ça m'arrive? Presque 3 ans, j'ai vécu cette expérience-là. Terry Anderson était un journaliste enlevé par des terroristes en 1985. Cet homme-là, pendant 6 ans et demi, il a été retenu par des terroristes au Liban. La plupart du temps, il était attaché à une colonne, à une poutre qui était froide. La plupart du temps, il avait les yeux bandés. On le battait. Il était enchaîné. On crachait dessus, on l'humiliait. Terry Anderson était chrétien. Pensez-vous qu'il ne s'est jamais senti abandonné de Dieu? Non, certainement. Hein? Bien sûr que ça lui est arrivé. J.O.T. Elle a grandi dans un orphelinat aux Indes. À 17 ans, quelqu'un lui a offert de travailler. Quelqu'un lui a offert de lui trouver une job comme serveuse. Elle a accepté tout de suite pour pouvoir nourrir sa famille. Savez-vous ce qu'on a fait d'elle? Au lieu de travailler serveuse, ils l'ont emmenée et on l'a fait se prostituer. Jyoti a contracté le virus du sida et est tombée enceinte avant qu'on la délivre. Pensez-vous que Jyoti s'est senti abandonné de Dieu? Certainement. Joseph. Quand Joseph est en prison, puis le panetier, puis les chansons, les chansons est arrivé, puis ils ont eu un songe, puis il a dit à les chansons, il dit, « Souviens-toi de moi quand tu vas sortir. » Puis il savait qu'il était pour sortir. « Souviens-toi de moi, tu vas sortir, toi, là. » Puis il est sorti. Est-ce qu'il ne parlait à Pharaon? Combien de temps? 2 ans! Ça a pris 2 ans! 2 ans plus tard, il a parlé. Pensez-vous que Joseph ne s'est jamais senti abandonné de Dieu? Prenons l'expérience de David. Un être humain comme nous, Dieu l'avait-il réellement abandonné? Non. Nous sommes tous d'accord pour dire non. Mais aux yeux de David lui-même, Dieu paraissait être loin. Est-ce que Dieu l'était? Non, il ne l'était pas. Aux yeux de David, Dieu paraissait silencieux. Est-ce qu'il l'était? Non. Mais David ressentait réellement ce qu'il vivait. Il vivait le désespoir. Il était au bout de ses sentiments. À quoi ressemble notre vie quand on est abandonné de Dieu? Ce troisième point. Regardez le verset 13. Verset 13 à 21. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent comme contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se décherche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne point. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Pas reposant, cette situation-là. Pas reposant, quand on fait attention aux mots, là, verset 13, là, de nombreux taureaux sont autour de moi. Là. Imaginez-vous la scène. Là. De nombreux taureaux sont autour de moi. Verset 14, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. 17, des chiens m'environnent. 21, protège mon âme contre le buffle. Contre le pouvoir des chiens, c'est-à-dire « Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buff. » David se sentait encerclé par des animaux sauvages. C'est comme ça qu'il se sentait, lui. Ces animaux sauvages-là sont le symbole de ses ennemis. Il se voyait comme ça, au centre et encerclé. Un taureau sauvage qui menace. Un taureau sauvage, qu'est-ce que ça fait? Ça charge. Ça charge. Imaginez-vous au travers debout dans un clos, là, puis il y a des taureaux sauvages alentour de vous. Là. Imaginez-vous comment vous allez vous sentir. Un lion qui menace de bondir sur toi pour te dévorer. Les taureaux sauvages. Un lion qui est là. Les chiens là, qui étaient venus, c'était des chiens errants dans ce temps-là. C'était comme des charognards. Si vous aviez des chiens alentour de vous, là, attendiez-vous à mourir. C'était comme des vautours qui planent et qui attendent le bon moment là, pour vous dévorer. Vous saisissez? Quand on est abandonné de Dieu, ça ressemble à ça. Ça ressemble à quelqu'un qui a été parachuté en pleine jungle. Puis là, il entend des animaux sauvages rugir alentour de lui. Pas reposant, hein? Pris, encerclé, pas d'issue. Imaginez-vous le monde, comment pour Terry Anderson durant ses 6 ans et demi, là, comment le monde était pour lui. La plupart des personnes qui étaient en contact avec lui, c'était qui? c'était des terroristes. La plupart des personnes, c'était des terroristes. Puis même si un terroriste semblait gentil, qui semblait fin, là, ben ça restait toujours un terroriste. On ne met pas la main sur un petit lion, puis on ne flatte pas un petit lion, parce qu'on sait que le petit lion, qu'est-ce qu'il va devenir, le petit lion? Il va devenir grand, puis le petit lion, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Il va te dévorer. Il va te dévorer. Vous savez, la vie de Terry devait ressembler à ça. Il devait ressembler à une jungle, entourée de tous ses ennemis. C'est pas ta biographie, hein? Non. Jodie, elle, voyait le monde comment? Même après avoir été libérée de son esclavage sexuel par une organisation chrétienne, elle avait encore de la misère à faire confiance aux gens. Même après avoir été libérée. Savez-vous comment elle considérait les hommes? Comme des prédateurs. Comme des animaux qui voulaient l'utiliser. Son monde à elle, son monde à Terry, comme elle voyait ce monde, elle les voyait comme des taureaux, comme des lions, comme des chiens, qui cherchent à la blesser, qui cherchent à l'exploiter. La vie ressemble à ça quand on est abandonné de Dieu. Ben, quand on semble penser, quand on pense qu'on est abandonné de Dieu, ça ressemble à ça. Mais à partir du verset 23, il y a quelque chose qui se produit. À partir du verset 23. Regardez-le, on va lire le verset 22. Là, il dit, « Dieu éternel, sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du bœuf. » Puis là, au verset 23, il dit, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. » Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 22 et le verset 23? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il était dans l'ombre de la vallée de la mort, de ce qu'on peut voir, il se sentait comme ça. C'était à la fin, complètement seul, foutu, désemparé, abandonné. Puis arrive au verset 23, puis là, il a le désir de se retrouver avec ceux qui aiment le Seigneur. Il a un désir de se trouver là. Qu'est-ce qui est arrivé? Y a-tu bu, je ne sais pas moi, une douzaine de Gatorade là, ou une boîte de vitamine C? Qu'est-ce qui est arrivé avec lui, là? Au moment où David prie encore, il a soudain conscience d'être exaucé. Au moment où il prie encore, il a soudain conscience d'être exaucé. Regardez le chapitre 20, verset 7. Il arrive beaucoup de malheur, beaucoup de détresse dans la vie de David. Pour verset 7, il dit, « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. » Wow! La foi est revenue. Non, Dieu ne m'a pas abandonné. Non, Dieu est là. Non, Dieu ne m'avait pas abandonné dans mon sol, dans ma grotte. Non! Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah ouais? Assis là, parlant à Dieu, puis il me semble que ça passe à pas, puis d'un coup, hop! Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Serge, m'aimes-tu? Serge, m'aimes-tu? Bon, ça vous rappelle quelque chose, hein? Jean-Pierre? Serge, m'aimes-tu? Ben oui, Seigneur, je t'aime. À l'instant même, qu'est-ce qui arrive avec nous? On fait confiance au Seigneur. Tu es là. Tu t'es pas éloigné. Tu es présent. Je vois plus les choses comme je les voyais. Tu es là, présent. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exauce des cieux et de sa demeure sainte. À l'instant même. Maintenant, il se voit dans un culte d'adoration. Verset 23. « Publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. » Que faut-il faire quand on se sent abandonné de Dieu? Eh bien, voilà la solution. Il faut trouver des forces. Il faut retrouver des forces. Puis là où elles sont, ces forces-là, c'est vous là où elles sont? Au milieu du peuple de Dieu. C'est ça la solution. Elle est là, au milieu du peuple de Dieu. La situation de David n'avait pas changé, là. La chose qui a changé, c'est que maintenant, il est en réunion. Réunion avec le peuple de Dieu. Souvent, quand on vit une situation difficile, comme celle de David, on ne veut pas être avec le peuple de Dieu. Hein? On n'est pas bien, on ne se sent pas bien avec le peuple de Dieu. On a plutôt envie d'être isolé, d'être seul, d'être dans notre grotte, de fuir, de se cacher. Et qu'on dit souvent que j'aimerais ça avoir une vieille cabane dans le bois, là, puis rester là, là. Comment de fois qu'on peut dire ça, nous les hommes surtout? On n'a pas envie que les gens nous voient avec un visage malheureux. On n'a pas envie de faire semblant d'être joyeux et d'être super cool quand on vit des épreuves, quand on vit des persécutions. Personne n'a envie de ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens nous jugent. On a peur qu'en découvrant nos émotions, nos sentiments, ça semble si peu spirituel. Hey, ça t'arrive, ça? Comment ça que ça t'est arrivé à toi? Ben oui, ben, je vais-tu aller montrer ça à tout le monde? On n'a pas envie, hein? On n'a pas envie que ça arrive. Mais je peux vous dire, puis je le répète, les réunions de l'Élie, c'est exactement ce qu'il nous faut pour retrouver nos forces. J'en sais quelque chose. C'est pas facile, mais il faut. Il faut pas s'isoler. Il faut revenir là où il y a de la vie. Il faut revenir là où est le peuple de Dieu, ce corps qui est vivant. Il faut être là, être greffé à eux. En plus de retrouver ses forces dans les réunions, nous trouvons aussi l'espérance. Une espérance en regardant plus loin. Plus loin que le bout de mon nez. Plus loin que mon nombril. Plus loin que moi-même. Je regarde une espérance. C'est ce que David a fait, versets 28 à 32. On ne le lira pas tout, mais vous pouvez le lire chez vous. « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. » Se trouver au milieu du peuple de Dieu et regarder au futur royaume de Dieu. Voilà ce qui a encouragé David. Et aussi, voilà ce qui pourrait nous encourager nous-mêmes. Je vais terminer juste pour dire, peut-être que tu passes une période là où il te semble que tu es abandonné de Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'il te passe, tu vis cette situation-là maintenant. Laisse-moi te dire une chose. Dieu, là, n'a pas abandonné David. Puis Dieu, l'Éternel Dieu, ne t'abandonnera pas non plus. Prends courage. Prends courage, mon frère, ma sœur. Prends courage, Dieu ne t'abandonnera pas. Il l'a promis. Puis j'ai une Bible chez nous, ça s'appelle, la version, c'est le livre. Puis j'aimerais terminer avec ça. Il est là, mon frère, il est là. C'est-à-dire que je vais le lire, vous pouvez le lire avec moi à l'écran, c'est une version qui s'appelle le livre. Qui donc pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que tu as marqué la référence? Oui? OK, c'est ça, c'est dans Romains. Qui donc pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ? Si nous rencontrons des difficultés ou si le malheur nous frappe, si nous sommes pourchassés ou détruits, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Et si nous avons faim, si nous sommes sans argent, si nous courons des dangers ou si nous sommes menacés de la mort, cela veut-il dire que Dieu nous a abandonnés? Non, bien sûr, car l'Écriture nous dit que nous devons être prêts à affronter la mort pour lui à chaque instant de la journée, semblables à des moutons sur le point d'être tués. Mais malgré cela, une victoire éclatante nous est assurée par le Christ qui nous a aimés au point de mourir pour nous. Car je suis convaincu que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni même toutes les puissances de l'univers ne peuvent nous tenir éloignés de l'amour de Dieu. La crainte pour aujourd'hui, le souci du lendemain, le lieu où nous nous trouvons, rien de tout cela ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré par notre Seigneur Jésus-Christ, car quand il est mort pour nous. Deutéronome 31, 6. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Amen. On croit à ça? Yes! On va prier. Seigneur notre Dieu, oui, merci. Merci pour les épreuves. Merci de ce que tu as permis que dans ma vie, ça m'arrive. Merci aussi de voir ta bonne main, comment elle peut nous restaurer. Non, jamais tu t'es éloigné de moi. Jamais tu m'as abandonné. Tu as été toujours là, patient, prenant soin de moi malgré tout ça, me formant, m'édifiant, afin qu'on puisse devenir irréprochable, comme il est écrit dans ta parole. Oh, que nous soyons tous, que nous puissions tous être des hommes, des femmes irréprochables. Et Seigneur, que tu puisses te servir de nous encore une fois pour ta gloire à toi, en attendant ton retour. Maranatha, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen.